20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 25 juin 1997. Le commandant Cousteau nous quitte à l'âge de 87 ans. Nous sommes le 25 juin 1997. Jacques-Yves Cousteau rend son dernier souffle dans son appartement de Paris. Le capitaine prend le large pour un ultime voyage, rejoignant cette fois-ci l'autre monde, celui du silence. Cinq jours plus tard, plusieurs centaines de personnes sont rassemblées devant la cathédrale Notre-Dame à Paris. À l'intérieur, de nombreuses personnalités. Le président de la République, Jacques Chirac, la ministre, Dominique Voynet, le maire de Paris, Jean Tiberi, et même des académiciens, Hélène Carrère-Dancausse et Alain Decaux. Ils sont venus assister au dernier hommage à l'une des personnalités préférées des Français depuis de nombreuses années déjà. Dans l'église, tout près du cercueil recouvert du drapeau tricolore, le cardinal Jean-Marie Lustiger rappelle dans son homélie qu'en moins d'un demi-siècle, le célèbre et ingénieux commandant au bonnet rouge aura fait découvrir le monde sous-marin à l'humanité tout entière. Jusqu'à la fin de sa vie, Jacques-Yves Cousteau n'aura cessé de nous mettre en garde sur la dégradation de celui-ci. À force de plonger, il était devenu un témoin qui ne pouvait plus se taire. Curieux destin que celui de Jacques-Yves Cousteau, qui dans sa jeunesse pensait passer sa vie dans les airs avant qu'un accident ne vienne mettre un terme à ses rêves. Rapidement, il découvrira et tombera amoureux du monde sous-marin qui deviendra sa maîtresse et à qui il le rendra bien, devenant aux yeux du monde entier son dernier gardien. Et malgré la pluie, ils sont nombreux en ce 25 juin 1997 à vouloir lui dire merci devant la cathédrale Notre-Dame.
Il aidait beaucoup les gens, il protégeait les animaux et il portait souvent un chapeau rouge.
Pour plusieurs générations, le commandant Cousteau sera l'homme qui révéla la fragilité de la Terre aux yeux du monde, qui n'aura de cesse de parcourir les océans, alerté sans relâche depuis son bateau océanographique, la Calypso, qui perfectionnera le scaphandre autonome, qui lancera la première pétition pour protéger l'Antarctique des exploitations minières. Retour ce soir sur la vie d'un célèbre commandant au bonnet rouge, séducteur et inoubliable tête de mule, devenu à la fin de sa vie le défenseur d'une planète bleue. Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde du silence, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Ce soir, nous nous rappelons un homme qui a révolutionné notre relation à la mer, qui nous a emmenés dans ses profondeurs pour sonder notre respect de la nature, qui nous a ouvert les yeux sur le précieux, le commandant Cousteau, gueule de marin, bonnet rouge et conviction accrochée à la barre. Nous sommes le 25 juin 1997 sur RTL et il est 13h.
Cousteau est mort. Chez lui, à Paris, il avait 87 ans. Le commandant a rejoint le monde du silence, a annoncé son équipe. Le commandant au bonnet rouge aimait l'eau, pas la mer. Entrer dans l'eau, pour moi, c'est un baiser sur tout le corps, disait-il. Océanographe, il a bâti une entreprise. C'était l'un des Français les plus célèbres à travers le monde.
Bonsoir Yves Pacalet.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes philosophe et naturaliste. Je vous remercie de faire un petit passage à Paris, parce que vous êtes un grand voyageur quand vous n'êtes pas dans votre montagne. Vous avez été le bras droit du commandant Cousteau pendant une vingtaine d'années. Vous avez également co-lancé la fondation Cousteau en 1981. Alors aujourd'hui, on est en 2021. C'est difficile en fait d'établir, je dirais, en quelques mots, la fonction du commandant Cousteau, pour tous les jeunes qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas et qui n'en ont même pas entendu parler. Voilà, qui était le commandant Cousteau ?
Oui, c'est un peu paradoxal parce que dans sa période de gloire, il était connu dans le monde entier. On allait au fin fond d'Ouganda, tout le monde connaissait Cousteau. Il avait vu des films sur des cassettes plus ou moins pourries, mais ils avaient vu des films de Cousteau, pareil au Kamtchatka ou au fin fond d'Argentine. Le monde entier connaissait Cousteau. Ça, c'est quelque chose de faramineux. Je connais personne qui soit aussi célèbre mondialement dans ce domaine-là que Cousteau à l'époque. C'est un personnage qui, moi, m'a fasciné très vite quand j'étais gamin. Je n'avais pas beaucoup la télé, mais on connaissait quand même, on voyait de temps en temps des films. Et je rêvais de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de mettre le nez sous l'eau. La première fois où j'ai mis le nez sous l'eau, c'était en colonie de vacances. Je m'en souviens très bien, j'avais 10 ans. J'étais parti de ma montagne natale, où je continue de vivre maintenant. Et c'était à Marseille, sur la plage de la Pointe Rouge. Où d'ailleurs, assez intéressant, on fait un repas annuel des anciens de la Calypso sur un restaurant à la Pointe Rouge.
La Calypso qui était le bateau du commandant Cousteau, on y reviendra.
C'était un endroit magique. J'ai vu pour la première fois une méduse. Et j'ai eu le même émerveillement que Cousteau me racontait avoir eu. C'est-à-dire, une méduse, bon, les gens disent, ouais, une méduse, mais quand on la voit dans l'eau à travers son masque, quand on voit la fluidité, l'extraordinaire beauté, la coloration dorée des tentacules de la méduse, on se dit, c'est ça que je veux voir un jour, encore et encore. Et les créatures marines sont tellement nombreuses et tellement belles. Et c'est la première phase de Cousteau, si je veux dire, de sa vie, ça a été de montrer au monde entier qu'il y avait quelque chose sous la surface.
Oui, parce que pour nous, enfin, à cette époque-là, la mer était une étendue d'eau sur laquelle on naviguait, mais personne n'allait véritablement en dessous.
Pire que ça, la mer était réputée être de l'eau qui portait les bateaux. Mais sitôt qu'on était sous la surface, c'est que ça allait vraiment très mal pour les marins. Il ne fallait surtout pas être sur la surface. Et Cousteau est arrivé en disant voilà, sous la surface, il y a un monde extraordinaire, des millions d'espèces différentes, de poissons, de crustacés, d'échinodermes, etc. Toutes différentes, qu'on ne connaissait quasiment pas à l'époque. On connaissait ce que les marins-pêcheurs récoltaient, quelques coquillages, des poissons, qui se retrouvaient sur l'étal du marché morts, donc pas beaux. Et quand on les voyait ensuite, dans leur milieu, ces créatures sont fabuleuses. Alors, elles n'aiment pas toutes. Il y a des prédateurs, il y a des proies, il y a des créatures qui vivent en bande, il y en a d'autres qui sont solitaires. Bon, ça, c'est une sorte de pénétration d'un nouvel écosystème qu'il a porté au monde entier. Alors, évidemment, avec le grand film qui a fait date, qui
est
Le Monde du Silence, ça a été une révélation pour le monde entier.
Donc, pour ceux qui nous écoutent, là, ils ont compris que Cousteau était un explorateur, d'une certaine façon, qu'il était réalisateur, puisqu'effectivement, il a fait de nombreux films, je le disais, et de nombreux documentaires, on y reviendra. C'était aussi un inventeur.
Surtout permis à beaucoup de personnes, d'ingénieurs qui avaient des idées, de les réaliser vraiment. C'est ce que disaient tous les collaborateurs de Cousteau. Gagnant, par exemple, Émile Gagnant, qui a co-inventé avec Cousteau le scaphandre autonome, qui a révolutionné la possibilité pour les hommes d'aller voir sous la mer ce qui se passait. Gagnant disait, oui, il m'a permis de le faire. Gagnant était un ingénieur, il a eu l'idée de ce scaphandre autonome qui a permis l'existence des hommes grenouilles, comme on les appelait à l'époque.
Les premiers hommes grenouilles.
Et Cousteau avait permis à cet homme-là de réaliser un rêve d'ingénieur qui n'osait pas présenté ailleurs. Et de la même façon, il a recommencé à chaque fois. Les caméras sous-marines n'existaient pas. Un homme qui s'appelait Armand Dapsot a commencé à les mettre au point parce que Cousteau lui a demandé. Et donc, au début des plongées, il fallait aller filmer, mais aller filmer, il n'y avait pas de caméra, donc on ne pouvait pas filmer, donc il fallait d'abord inventer les caméras. Et Cousteau n'a pas inventé les caméras, n'a pas inventé le scaphandre autonome, mais il a en quelque sorte rendu possible l'existence de ces instruments.
En fait, il a impulsé des projets, et des révolutions.
Oui, ça a continué après, quand on a fait le bateau à turbo-voile, par exemple, une voile artificielle, enfin en métal et non plus en tissu, qui permettait de gagner beaucoup d'énergie dans les voyages. Il y a un ingénieur, Dr Malabar, qui a pu aussi réaliser ce dont il avait rêvé toute sa vie. Il y pensait depuis des années et des années. Il est allé voir un jour Cousteau. Cousteau a dit, c'est génial. Il est allé chercher des aides à droite à gauche, comme il savait très bien le faire, auprès des industriels pour avoir le matériau, l'aluminium en l'occurrence, etc. Cousteau savait rendre réels les rêves des autres, et les siens aussi. Il savait très bien utiliser les rêves des autres, parce qu'il savait ce dont il avait besoin. Il était très, très, très malin, très en avance sur ces questions techniques. Il ne se laissait jamais déborder. débordé, mais il était le passeur du génie d'autres, pas seulement du sien.
Eh bien voilà une belle introduction à cette émission. On va se retrouver dans un instant parce que vous êtes allé sur la Calypso, ce fameux bateau. On va revenir sur cette histoire et vous allez nous emmener en expédition quand même, Yves Pacalet, parce que maintenant qu'on vous a, vous allez nous faire voyager. A tout de suite dans Jour J sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit et qui vous rappelle un homme qui vous a fait voyager et découvrir le monde marin, celui que l'on dit du silence et dont la protection aujourd'hui fait grand bruit. Jacques-Yves Cousteau est à la une de ce numéro de Jour J. Yves Pacalet, vous l'avez bien connu et vous en parlez formidablement bien de cet homme. On dit que Cousteau, il a tourné ses premiers documentaires durant la Seconde Guerre mondiale. Vous l'avez rencontré un petit peu plus tard quand même, hein, dans les années 70. Mais quand il a commencé en fait à être connu, le commandant Cousteau, avec son bonnet rouge et puis ses expéditions. Il vous a fait rêver, vous, avant que vous puissiez le rejoindre.
Ah oui, j'ai rêvé. J'ai pas connu pendant la Seconde Guerre mondiale, vu que j'étais pas encore né.
C'est bien ce que j'étais en train de vous dire. Je vous aurais pas fait cet affront-là.
Il est né en Gironde, à Saint-André-de-Cubzac, où il est d'ailleurs enterré. Bon, ouais. Je reviendrai là-dessus. C'est pas tellement d'accord avec ce destin du corps de Cousteau, qui, comme tous les marins, devrait plutôt être dans la mer. Enfin bon, c'est une question différente. Ouais. Il a fait l'école navale. Il voulait aussi être pilote. D'ailleurs, il voulait d'abord être pilote d'avion. Et puis, c'est un scénario assez romantique, mais en même temps romantique qui finit pas entièrement bien, pour aller retrouver sa fiancée, Simone, la bergère, comme on l'appelait, Simone Melchior. Il a pris sa voiture et il a eu un gros accident qui l'a rendu inapte à piloter des avions. Et du coup, il a suivi son chemin quand même à travers le monde et son idée d'aller explorer le monde en allant l'explorer dans la mer. Elle a exploré la partie la plus vaste du monde finalement. Mmh. 70% et davantage de la surface de la Terre sont des océans. Et donc, il y est allé, il a commencé à filmer très tôt. Quand il était jeune, il était allé à Hollywood parce qu'il voulait faire du cinéma. Il voulait être Errol Flynn. Tout le monde veut être à un moment donné un acteur ou une actrice fameux. Mais en tout cas, il voulait être cinéaste. Et d'ailleurs, on le présente souvent comme un océanographe, comme il a écrit des livres. Enfin, les livres, je sais bien que c'est nombre d'entre eux, c'est moi qui les ai écrits. Mais il était très fier de son attribution de cinéaste, de metteur en scène des choses de la mer. Et quand on lui demandait ce qu'il faisait, réellement, dans toutes les attributions qu'il avait, il disait je suis réalisateur.
Alors justement, en 1956, le film Le Monde du Silence obtient la Palme d'Or du 9e Festival de Cannes. Ils ne sont que deux à ce jour à avoir reçu le prix suprême pour un documentaire, le deuxième étant Michael Moore avec Fahrenheit 9/11. Cousteau est à Cannes, il tient un discours d'une modernité saisissante. Écoutez.
Comment est-ce que l'idée vous en est venue de faire des films ?
Je crois que j'ai commencé à faire des films à partir du moment où j'ai constaté que nos camarades et moi, nous avions quelque chose à dire, à faire connaître au public. Vous voyez, à notre époque, je suis convaincu que rien ne peut se faire sans un large appui de l'opinion publique. Rien d'important, en tout cas. Et si nous voulons, par exemple, expliquer qu'il est nécessaire pour l'humanité d'entreprendre la conquête de la mer, eh bien, il faut que le public en soit convaincu. Tout ça va de pair. Notre époque ne peut rien faire sans s'associer largement à l'opinion publique.
Il comprend l'intérêt de l'opinion publique, il comprend le pouvoir de l'image. On est en 1956, à cette époque-là, personne ne connaissait véritablement les fonds sous-marins, personne ne faisait ce que faisait Cousteau. On pourrait tenir ce genre de discours aujourd'hui.
Il a toujours pensé que, c'est son slogan d'ailleurs, pour faire protéger ce qui est beau, il faut le faire aimer, et pour le faire aimer, il faut le montrer. Mmh. Il a toujours été un homme de médias, en général, mais plus particulièrement de l'image. Le monde du silence, qui a été tourné en mer Rouge, et puis ensuite dans l'océan Indien, jusqu'à Cosmolodo et Adabra, des îles absolument magnifiques, avec des séquences qui sont restées dans la tête des gens même qui ne les avaient pas vues à l'époque, et les ont redécouvertes ensuite, ou découvertes tout court, avec Jojo le Mérou, avec ces personnages bizarres. Eh bien, ce film-là a été un succès mondial, effectivement. Mmh. Palme d'Or à Cannes en 1956, Oscar à Hollywood.
Enfin, oui, bon, Oscar. C'est l'année d'après.
Quelque chose qui a remué le monde, et Cousteau était très conscient du fait qu'il devait montrer. Et il a continué ensuite, il a fait 4 films de long métrage, avec le monde du silence, mais très vite, il est devenu un homme de télévision. Mmh. Quand il était encore pour beaucoup en noir et blanc, pas tout à fait dans certains endroits, mais pour beaucoup encore en noir et blanc, il a dit « je vais faire de la télévision parce que l'avenir était la télévision ». Je ne sais pas ce qu'il ferait maintenant avec les réseaux sociaux, hein, je me demande, mais à
vous,
l'époque...
Vous pensez, justement, j'allais vous le demander, vous pensez qu'il serait super connecté, Cousteau, s'il était encore en vie ?
Il avait toutes les connexions possibles et imaginables. Il était passionné d'ailleurs par ça. Alors, à l'époque, les premiers Telex, les choses comme ça. Enfin,
bon, là, aujourd'hui, il serait sur Instagram, il aurait sa chaîne TikTok, enfin voilà, quoi, il serait sur les réseaux, quoi. Il était de son temps.
C'était une connexion qui, à l'époque, était toute relative, parce que quand on partait en expédition, il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas de GPS, on ne savait pas où on était, on ne pouvait pas appeler les secours,
alors,
parce qu'il n'y avait pas de secours possible.
Autrement plus aventurier, parce qu'en fait, vous connaissez le bateau, la Calypso. La Calypso, c'était un bateau qui lui avait été offert par un milliardaire britannique qui s'appelait Noël Guinness. Il lui a offert un dragueur de mine et c'est effectivement Cousteau qui a décidé de reconvertir ce bateau en navire océanographique. Comment vous vous êtes retrouvé, vous, un jour sur ce bateau ?
C'était en 1972, si mes souvenirs sont bons. Je venais de faire mai 68.
Vous étiez sur les barricades et tout ?
On avait un peu remué la France.
D'accord, ouais.
Mais les deux principaux bénéfices que j'ai eus de mai 68, c'est pas d'avoir été gauchiste, c'est pas d'avoir semé la zizanie dans les rues de Paris, mais c'est d'être devenu écologiste et féministe aussi. C'est les deux principales conquêtes pour moi de mai 68. Et donc, du côté écolo... je cherchais une manière d'exploiter mon modeste talent littéraire dans ce domaine-là. J'ai travaillé chez Robert Laffont à l'époque pour quelques projets d'encyclopédie et Cousteau voulait faire une encyclopédie, je l'ai appris, on m'a demandé si je voulais y participer. Je cherchais quelqu'un qui sache à la fois écrire en français et qui connaisse aussi un peu de science, qui connaisse un peu de philosophie, ce qui était mon cas, j'étais un peu... Dans divers domaines, et j'ai été amené à rencontrer Cousteau pour cette encyclopédie. Je me souviens très bien d'ailleurs que dès cette première rencontre que j'ai eue avec lui, il était parfaitement conscient non seulement de la beauté du monde et de la nécessité de montrer cette beauté pour la faire aimer, mais de sa fragilité. Parce qu'à la fin de notre entretien qui a scellé notre accord qui allait durer 20 ans, pour faire cette encyclopédie d'abord, dont j'étais le principal rédacteur, et puis après pour faire toute la série de livres, à la fin de l'entretien, dans son appartement, du haut de l'escalier de son appartement du Faubourg Saint-Honoré, quand je l'ai quitté, il m'a dit « Yves, on va travailler ensemble. J'ai vu des spectacles du monde que personne ne verra jamais plus. » Donc il avait une conscience aiguë du fait que le monde était fragile et que déjà, dans les années 70, il était menacé. Et il m'avait dit « on va travailler ensemble, on va voir des spectacles du monde que personne n'a jamais vus. J'espère que vos enfants pourront dire la même chose, voir la même chose, dire que c'est magnifique. » Malheureusement, je conclue rapidement cette séquence en disant que quand il est arrivé mon tour d'avoir l'âge qu'il avait à cette époque-là, j'ai dû dire la même chose aux enfants du monde qui me posaient la question « est-ce que ça existe encore ?»« Ben non, là, ici, ça a été abîmé, là, ça a été détruit, etc. » La conscience écologique est née en même temps que la nécessité de s'émerveiller du monde.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci pour votre écoute attentive à Jour J. Si le commandant Cousteau a réussi à nous sensibiliser à la cause des océans, c'est parce qu'il avait compris, certainement avant tout le monde, que la télévision, l'image, serait sa meilleure alliée. Yves Pacalet, donc, vous êtes notre invité pour parler de cet homme avec lequel vous avez conclu un accord, vous me l'avez dit il y a un instant, pour 20 ans. Vous étiez parti pour 20 ans. 20 ans qui semblent vous avoir marqué. C'est passionnant la façon dont vous nous racontez et les océans et Cousteau. Vous avez forcément entendu cette polémique, hein, même au sujet du monde du silence ou de documentaires qui ont été tournés depuis le bateau La Calypso il y a quelques années, en disant que finalement ça n'était pas si respectueux de l'environnement et du monde sous-marin que ça, puisqu'on assistait à des scènes qui existeraient aujourd'hui, choqueraient l'opinion. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ?
C'est la même chose qu'il avait répondu. On s'était vu pour savoir si on était du même avis, c'était le cas. On a une fâcheuse tendance aujourd'hui à juger les choses du passé avec les critères du présent. Et il a fallu rappeler que quand Cousteau est parti avec la Calypso en 1951, c'est cet ancien dragueur de mine transformé grâce à l'argent de la première femme de Cousteau, Simone, dans une période que je n'ai pas connue, mais qu'on m'a bien raconté et qui était héroïque, est parti. Et dans ce temps-là, quand les scientifiques voulaient savoir ce que mangeaient les dauphins, eh bien, ils attrapaient un dauphin au harpon, ils le tuaient, ils ouvraient le ventre et regardaient ce qu'il y avait dans l'estomac. De la même façon, pour savoir ce qu'il y avait comme poisson sur un récif de corail, on amenait un bâton de dynamite et on le faisait exploser. Et c'est deux ou trois séquences comme ça qui sont dans le monde du silence et dont les jeunes générations prennent un air horrifié quand elles voient ces séquences-là. Et il fut un moment où, pour une remasterisation, je ne sais plus quoi, du monde du silence, des producteurs américains, européens, ont dit à Cousteau, il faut enlever ces séquences-là du monde du silence et puis on les remplace par des séquences. On a des kilomètres de films où il y aura des beaux poissons et des beaux dauphins vivants. Et Cousteau a eu le réflexe de dire ce que j'aurais dit exactement de la même façon, c'est qu'on ne refait pas l'histoire, on ne réécrit pas l'histoire, parce que si je mets, disait-il, des dauphins vivants à l'endroit où on voyait des dauphins morts, ou des requins morts, ou des poissons morts, c'est comme si je faisais ce que faisaient les soviétiques à l'époque de Staline et de Brejnev, c'est-à-dire que je gommais les têtes qui me gênent dans le film de l'histoire. Non, à l'époque, on travaillait comme ça, on faisait comme ça, et c'est après, grâce à ces films, qu'on a cessé de le faire et que tout le monde a pris conscience qu'il fallait protéger les baleines, parce qu'on l'a dit, qu'il fallait protéger les dauphins, parce qu'on l'a dit, on était les premiers à le dire, parce qu'il fallait même protéger les requins, parce que c'était notre étape suivante. Tout le monde a commencé ensuite à dire, oui, il faut protéger les animaux. Ben oui, mais à l'époque, on ne savait pas, et les scientifiques ne travaillaient pas comme ça. Et quand il a commencé, Cousteau, c'était encore la science du 19e siècle, pour certains aspects. Et quand il a fini, c'est la science du 21e, même s'il est mort avant le 21e siècle. N'importe que les séquences historiques soient respectées dans ce domaine-là comme dans les autres. Sinon, on ment, et le mensonge est le pire ennemi de la beauté du monde.
Dites-moi, Yves Pacallet, quels sont les souvenirs que vous avez de ces années passées auprès de Cousteau sur le bateau? Les expéditions, vous en avez fait.
Oui.
Comment ça se passait? Emmenez-nous en expédition.
Dans une expédition sur la Calypso, il fallait être bien avec Simone Cousteau, la bergère, la première femme de Cousteau. Parce que Cousteau donnait les indications globales du voyage. On va filmer les baleines à bosse, on va filmer les requins dormeurs du Yucatan, on va filmer la marge des langoustes à Belize, etc. Ça, c'était la marge générale qui valait pour tout le monde. On va faire ça. Et puis, il y avait quelqu'un à bord qui était le véritable capitaine. C'était Madame Cousteau. Simone Cousteau, la bergère. Et quand on était bien avec elle, on avait une bonne cabine bien aérée. Et quand on était mal avec elle, parce qu'on l'avait vexée ou qu'on l'avait simplement manifesté pas suffisamment d'enthousiasme, elle nous mettait dans la cabine située le plus près des moteurs, dans les odeurs de fuel. Et c'était les cabines épouvantables.
Donc c'était
une personne extraordinaire, la bergère. J'adorais.
Ah,
tout le monde l'adorait. Oui, oui. Mais alors,
mais c'était
un vrai
quoi
marin.
C'était un peu la patronne.
C'était la patronne à bord. Oui, oui.
C'était un peu ce qu'on dirait aujourd'hui la daronne. Qui matait tout le monde et qui en même temps générait beaucoup d'affection.
C'était un marin, c'est-à-dire qu'elle jurait comme un pompier. Et quand on, je ne sais pas si les pompiers jurent, d'ailleurs c'est l'expression. Enfin bon, admettons. C'est un personnage qui a animé la Calypso. Elle était à la fois cette femme qui commandait à bord, c'est elle qui régentait le bord. Mais en même temps, c'était la consolatrice. À l'époque, il n'y avait pas de transmission téléphonique à travers le monde entier. Et donc, quand il arrivait un malheur dans la famille d'un des équipiers, et c'est arrivé à plusieurs reprises, on le savait quand on arrivait à l'escale suivante. Et donc, c'était la bergère qui était avertie la première et qui avertissait le marin du malheur, de l'événement, du problème, etc. Et donc, elle était en même temps la consolatrice et l'organisatrice du bord. Et c'était assez extraordinaire. À la fin de sa vie, elle était rongée par les cancers. Et elle a fait toutes les missions jusqu'à la dernière. On lui disait, il ne faut pas partir cette fois-ci, peser 33 kilos, la première vague qui va arriver va vous renverser. Et là, quand je disais qu'elle jurait, c'était pour ça, c'est m'emmerde pas, j'y vais quand même. Elle est partie jusqu'à la dernière mission, Et elle avait l'habitude de dire qu'elle était la femme de marin, et probablement la seule femme de marin qui attendait son mari à bord du bateau. Parce que son mari était plus souvent à terre en train de s'occuper de télévision, de chercher des sous pour le prochain film, d'avoir un rendez-vous avec tel constructeur, etc. Et elle était à bord. Elle a fait toutes les missions de A à Z depuis le début jusqu'à la fin. J'avais une admiration sans borne pour elle. C'était vraiment l'âme de la Calypso. J'ai nommé comme ça dans le bouquin que j'avais fait sur la biographie de Cousteau. Et elle était vraiment l'âme de la Calypso, oui.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Depuis 20h, vous écoutez Yves Pacalet qui nous raconte le commandant Cousteau. Yves Pacalet, vous avez passé donc 20 ans à ses côtés. Vous avez vécu, vous aussi, avec toute l'équipe sur la Calypso. La Calypso dont on a compris que l'âme, c'était la bergère, c'était l'épouse donc du commandant Cousteau. On va partir ensemble avec vous sur ce bateau. Où est-ce que vous voulez nous emmener ?
On peut faire plusieurs tours du monde avec ce qu'on a réalisé. L'expédition la pire, à commencer par là, qu'on a faite, c'était à l'entrée du canal de Trente en Méditerranée, donc près de Trente, il y avait un bateau qui avait coulé, un cargo, avec à bord 900 tonnes de fûts de plomb, tétraéthyle et tétraméthyle, qui aurait pu empoisonner la moitié de la Méditerranée. Et Cousteau, grâce à un petit juge italien, est arrivé, alerté par ce petit juge, et a dit « Alerte, on y va, il faut renflouer ce bateau ». Et on a tout fait. Les plongeurs sont allés en combinaison type centrale nucléaire pour essayer de remonter ce poison. On a fait des missions comme ça qui étaient absolument indispensables, des missions d'écologie au sens le plus crade du mot, quand vraiment les hommes s'ingénient à faire les choses de façon absolument inqualifiable. Et puis il y a eu pas très loin de là, des expéditions à la recherche de l'Atlantide, par exemple quand on cherchait l'Atlantide au fond de la Méditerranée, dans les îles grecques, en cherchant des vestiges de 1500 ans d'âge qui auraient subi les effets du volcan de Santorin, qui auraient pu expliquer la submersion de l'Atlantide. Ça, c'est des missions de pur rêve sur Santorin. J'ai médité longues heures. Et puis des missions en Amazonie, quand on s'est mis à descendre les fleuves, on a descendu le Nil, on a descendu l'Amazone, le Mekong et d'autres encore. La vie sur les rivières, les 1000 rivières de l'Amazonie, ça a été une révélation. Maintenant, elle est bien massacrée. Malheureusement, beaucoup d'endroits où on est allé ont été dévastés par les incendies et par le défrichement. Mais des plongées dans les rivières tiède, chaude, avec des piranhas tout à fait innocents, ils ne veulent pas nous manger, des poissons pirarucu gigantesques, rouges et verts, de 3 mètres de longueur, avec les dauphins roses qui viennent curieux voir quels sont ces bizarres poissons qui savent à peine nager, c'est des souvenirs merveilleux. De la même façon, on avait filmé pour la première fois sur la grande barrière de corail australienne la reproduction en masse des coraux. Les coraux se donnent des signaux dont on ignore, ils sont biochimiques, mais on ignore le détail. Et en fonction de la Lune, commencent à se reproduire tous ensemble. Sur des milliers de kilomètres, que fait 3000 kilomètres de longueur que fait la Grande Barrière, les coraux se mettent à pondre tous ensemble et à émettre des nuages de sperme qui ressemblent à un brouillard. Et c'est une sorte de neige à l'envers, c'est Noël à l'envers en quelque sorte. La neige tombe pas du ciel, elle monte vers la surface. On nage dans cette espèce de lupanar de la vie de l'océan et on est parfaitement émerveillé. Puis bon, pas très loin, même à quelques kilomètres de là, il y a la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, d'abord des dauphins, les plus gros dauphins de l'espèce des grands dauphins, les plus gros Tursiops, qui viennent regarder, voir, écouter. On étudie les dauphins et on a tout à fait la sensation que les dauphins nous étudient en même temps. Ils ont un regard d'une malice. On lit l'intelligence dans l'œil des dauphins. De la même façon, on la lit dans l'œil des cachalots qu'on a vu aussi en Nouvelle-Zélande. Et puis là, on a plongé en soucoupe plongeante qui peut aller jusqu'à 350 mètres de profondeur. Et dans ces milieux-là, dans les fjords de Nouvelle-Zélande, il y a une couche superficielle d'eau qui est quasiment du chocolat. parce que ce sont des débris organiques qui sont charriés par les pluies très abondantes et qui viennent s'entasser en surface de la mer. Et puis quand on traverse cette couche de chocolat qui fait 4-5 mètres d'épaisseur, on entre dans un milieu qui est parfaitement obscur, mais avec les lampes qu'on allume, avec les projecteurs, qui devient une féerie comme jamais je n'avais imaginé. Le fait que la nuit règne là-bas fait que des créatures, des abysses remontent jusqu'à des profondeurs très atteignables. Normalement, elles vivent à 2000 ou 3000 mètres de profondeur, maintenant on les trouve à 50 ou 60 mètres. Avec des champs de créatures qu'on appelle les brachiopodes, qui sont des créatures très primitives, qui étaient déjà comme ça à l'ère secondaire, et même au début de l'ère secondaire. Et on a l'impression de plonger dans un rêve, à la fois dans le temps, dans l'espace, dans les profondeurs. On ne sait plus tellement où on en est, on ne sait plus où on est même du tout à un moment. Le pilote de la soucoupe où j'ai plongé à ce moment-là, c'est évidemment Albert Falco, c'est lui un des principaux personnages de cette aventure Cousteau. Et lui, heureusement, il restait concentré, il conduisait la soucoupe. Il valait mieux parce que j'avoue que dans certaines séquences, c'était tellement beau que j'avais l'impression qu'il aurait été très bien que tout finisse là.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Yves Pacalet, je dois vous confesser qu'on a beaucoup de mal à remonter à la surface après vous avoir entendu nous raconter ces expéditions. J'imagine que ce sont des images qui vous accompagnent toujours, ces expéditions de la Calypso avec le commandant Cousteau.
Ça nous accompagne. Je remercie, moi, Cousteau, de m'avoir permis de voir quelques-uns de ses spectacles et puis de m'avoir permis aussi de combattre avec lui pour essayer, pour le coup, en tant qu'écolo et que... Ouais. Et que personnage dans ce domaine de l'environnement dont on parle beaucoup, pour lequel on fait si peu, et il a fait beaucoup. Grâce à Cousteau, on a pu, par exemple, sauver l'Antarctique.
Alors justement, un engagement qui a été le sien, oui. L'Antarctique, effectivement, parce qu'il a décidé de défendre l'Antarctique à travers une opération avec donc des enfants. On est en 1989, hein, et donc il s'engage pour la préservation de ce que l'on appelle le continent blanc avec une équipe bien particulière. Écoutez.
Fumiko la japonaise, Kelly l'australienne, Oko l'africain ou Geronimo le chilien prolongent donc leurs vacances de Noël. Pendant 2 semaines, ils partent vivre la grande aventure de l'Antarctique, une leçon de géographie et d'écologie, grandeur nature.
Alors c'était quoi cette opération avec les enfants ?
Le traité de l'Antarctique avait été signé à la fin de l'année géophysique internationale en 1957, pour 50 ans. Il arriverait forcément à un moment où le traité était à son terme. Mmh. Et une bande de mineurs, au sens compagnie minière internationale, s'est aperçu qu'en Antarctique, il y avait probablement les mêmes richesses que dans les continents qui touchaient l'Antarctique pendant l'ère secondaire, c'est-à-dire en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, etc. Donc il devait y avoir plein de minéraux très intéressants à exploiter. Et ils avaient commencé à vouloir aller saccager l'Antarctique. Et je me souviens très bien qu'à cette date, en 89, quelques temps avant que le traité arrive à terme, Cousteau est arrivé un matin dans les bureaux de la Fondation Cousteau, à avenue de Wagram, et a dit « Alerte, on arrête tout et on met en branle un véritable mouvement pour arrêter cette envie d'aller saccager l'Antarctique ». Et donc on a commencé à lancer des alertes. On a fait signer une pétition. Alors, ce n'était pas des pétitions Internet, hein. C'était des pétitions que des gens allaient porter à des gens qui voulaient bien signer, qui mettaient vraiment leur nom, qui signaient avec un vrai stylo et pas avec un clic. Et il y a eu plus de 2 millions de signatures qui ont été faites. Et puis, on a réussi à faire intervenir en France Michel Rocard, qui était Premier ministre à l'époque, qui a pris et fait cause pour ça. Et on a défendu. Et le traité de l'Antarctique a été reconduit pour 50 ans. Et c'est à nos suivants de recommencer la même opération.
Vous l'avez accompagné, vous, Yves Pacalet, au sommet de Rio en 1992?
Oui, on y était. J'avais commencé à être écolo, moi, en 72. Il y avait eu le premier sommet de la Terre à Stockholm. Ouais. 20 ans plus tard, il y a eu Rio. Et on avait beaucoup d'espoir en 72. On dit, ça y est, la Terre est considérée comme un seul et même organisme qu'il faut sauvegarder, qu'il faut garder en vie même. Et donc, quand Cousteau a été présenté à Rio, avant tous les chefs d'État, comme le capitaine Planète,
incroyable.
On a été vraiment sidérés parce qu'on savait qu'il était devenu un personnage mondialement connu et qui représentait l'écologie. Mais là, on l'a vraiment présenté avant tout le monde. C'était l'homme le plus important de la Terre à Rio de Janeiro en 92. Et là, on s'est dit, les gens comme moi, ben, on a bien fait de travailler parce que maintenant, on arrive quand même 20 ans après Stockholm à ce que ça aille mieux pour l'environnement. Après, on a déchanté parce qu'il y a eu les flops sur le climat à Copenhague. Il y a eu même les derniers sommets de la Terre qui n'ont pas été extraordinaires. Enfin bon, ça a progressé quand même. Et Cousteau, à l'époque, a vraiment joué son rôle de capitaine planète. Il aimait bien qu'on le considère comme quelqu'un de très important. Chacun a son petit orgueil, quelle que soit la place qu'on occupe, mais en l'occurrence c'était mérité parce que il était réputé être celui qui avait le plus alerté le monde entier, grâce à ses films de télévision notamment, sur le fait que la terre est fragile, la mer est fragile, l'air est fragile et tout ça a besoin d'être préservé.
Donc c'était l'un des pionniers de l'écologie.
C'était la génération Cousteau, Paul-Émile Victor, Haroun Taziev. C'était des scientifiques de terrain. Avant eux, il y avait eu des scientifiques de terrain déjà, mais rares. Et puis, le voyage était difficile. Maintenant, on en était au stade où les scientifiques construisaient leurs propres instruments de recherche. J'avais interviewé les Picards aussi, inventeurs du bathyscaphe, qui construisaient leurs propres ballons et leurs propres bathyscaphes et qui montaient dedans. Il faut quand même être gonflé, quoi, parce que si on se rate, on est sûr d'être mort. Mais Cousteau, c'est ça aussi. Quand les premiers essais des soucoupes plongeantes, c'était la même chose. Il fallait construire son propre véhicule et puis après, démontrer que ça marchait. Parfois, c'était pas évident. Ils ont failli mourir, Cousteau, dans le tout début de la plongée avec Dumas et Taillez, le fameux mouche-commère, parce qu'ils avaient tout simplement gonflé leur bouteille sans le faire exprès, à trop près d'un échappement de moteur et qu'en fait, dans les bouteilles, il n'y avait pas de l'air pur, mais un gaz toxique sorti d'un moteur. Ils ont failli mourir, asphyxiés en descendant dans une plongée d'ailleurs par ailleurs très dangereuse dans les grottes inondées.
Merci beaucoup, Yves Pacallet. Cette émission n'était absolument pas celle qu'on avait prévue, mais elle a été encore mieux.
Je suis désolé d'avoir...
Mais je vous en prie, bien au contraire, vous n'avez pas du tout semé la zizanie, vous nous avez emmené, mais alors bien au-delà de ce dont on pouvait rêver. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir raconté et Cousteau et ce monde marin qui vous a tant évermeillé. Merci beaucoup. Je conseille votre livre « L'humanité disparaîtra ». Eh ben bon débarras, la nouvelle édition revue et aggravée, c'est chez Artaud. Dites-moi, vous écrivez aussi en ce moment, hein ? Vous reviendrez nous voir ?
Oui, oui, j'ai bien avancé mes mémoires, mais je ne les ai pas terminées.
Eh bien, vous les terminez, et puis vous venez et vous nous appelez, d'accord ?
Volontiers.
Merci beaucoup. À bientôt, Yves Pacallet sur RTL.